Entre-temps, un tour radiophonique de l'exposition Contre-temps à la galerie Arcade, 35 rue de la Bibliothèque. Une exposition proposée par Arcade et Auto-Production. Un tour suivi d'un contre-tour pour ce contre-temps, puisqu'on va voir l'ensemble des œuvres qui sont présentées dans cette exposition et qu'on aura l'occasion de revenir sur nos pas, voir certaines de ces œuvres, des vidéos pour la plupart, à plusieurs moments de leur développement. Un tour radiophonique pour venir mener une discussion, une conversation au milieu de ces œuvres. Mais je voudrais que, au-delà simplement du commentaire de l'œuvre, on essaye, à partir de l'expérience sensible qu'elle nous propose, d'aborder aussi quelques-unes des questions qu'elle suscite. Une exposition qui en effet s'intitule « Contre-temps », mais en poussant peut-être un petit peu plus loin cette idée de contre-temps, on arriverait à l'idée de contre-nature, à l'idée qu'un des champs de l'art contemporain, c'est justement d'être contre-nature, de regarder ces lois, des lois intangibles, universelles, que nul ne peut contredire, et bien si, des artistes, parfois, s'efforce de mettre des petits grains de sable dans les mécanismes célestes, et je pense qu'on va en croiser 7 au cours de ce parcours. Un parcours en compagnie de Léonore Nuritsany, qui est commissaire indépendante et qui a été invitée par Autoprod à ne pas être commissaire de cette exposition. Bonjour Léonore.
Bonjour.
Et qui néanmoins nous accueille dans cette exposition avec une feuille de salle. On la retrouve juste dans un instant, le temps de présenter les autres invités de cette balade dans l'exposition. Benjamin Cadon, qui est artiste, mais qui travaille aussi dans un atelier d'art multimédia qui est situé à Orléans et qui s'appelle Labo Média. On est aussi en compagnie de Jean Christoffol, qui est enseignant à l'école d'art d'Aix-en-Provence et aussi chercheur, notamment dans le cadre d'un groupe de recherche artistique qui s'appelle PLOT et qui a beaucoup travaillé sur la question de la lévitation. Et peut-être que certaines des œuvres qu'on va rencontrer nous amèneront à une discussion sur ce sujet de l'allègement. On est aussi en compagnie de Paul-Emmanuel Audin, qui est directeur de La Compagnie, une galerie située à Belzunce, et qui est par ailleurs l'auteur, je crois qu'il l'a soutenu en décembre dernier, d'une thèse sur l'inversion temporelle dans le cinéma. Et sans doute cette question du temps, de l'écoulement du temps, va-t-il dans un seul sens comme la nature semblerait nous le faire comprendre, ou bien peut-on travailler cette question du temps autrement que d'une manière unilatérale? On est aussi en compagnie de Lucien Gaudion et de Bertrand Wolf, qui représentent le label DATS qui d'ailleurs proposera une série de performances sonores autour des œuvres présentées, suivi aussi d'une performance de Benjamin Cadon intitulée Elle 2013. Tiens donc, 2013. Et on est aussi en compagnie de Paul Destieux et de Luce Moreau, qui sont à la fois des artistes qui présentent des œuvres dans cette exposition, mais qui en sont aussi les instigateurs, puisqu'ils représentent Autoprod, et c'est à Autoprod que la galerie Arcade a donné carte blanche pour cet événement qu'on va maintenant traverser. Léonore, on est à l'entrée de cette exposition Contre-temps et on est face à une feuille de salle. Je te propose de l'apprendre, quoique tu la connaisses bien, sans doute, puisque tu en es l'auteur. Oui. Une feuille de salle.
Il y a deux feuilles de salle, en fait, non ? Il y a une salle de feuilles avec des images d'œuvres et un autre plan de salle, c'est ça ? Un plan et il y a un texte en dessous.
Et alors, on a ce plan entre les mains et comme on fait d'habitude avec un plan, on essaye de faire se juxtaposer la réalité et sa représentation, c'est-à-dire le lieu qu'on voit se dessiner devant nous et puis la manière dont il est dessiné sur ton plan. Et là on a un souci.
Oui, parce que donc là, tu es rentré par le couloir, donc on se représente bien le couloir hein, sur le plan, et on comprend assez vite, je pense, que j'ai dessiné une cloison qui n'est pas représentée dans l'espace dans lequel on est physiquement et réellement, si j'ose dire. En fait, j'ai un petit peu répondu à l'invitation d'Autoprod avec une sorte d'impertinence amusée. Moi, ça m'intéresse de proposer en tant que commissaire d'exposition aux artistes de sortir un peu du lieu strict ou du lieu classique de l'exposition. Je propose régulièrement aux artistes d'exposer à la radio, justement, dans les journaux, dans la rue, sur Internet, et de réfléchir aussi à un rapport au temps, au rapport du visiteur à l'œuvre, et le temps que met le visiteur aussi à parcourir, à circuler dans l'espace. Donc ce sont des questions qui m'intéressent depuis longtemps. Donc on le comprend quand on voit le plan, je pense, et quand on lit le texte. J'ai inventé une histoire, en fait, j'ai écrit une histoire.
Alors le plan, c'est une discrépance, en fait. Quel terme ronflant et très sérieux pour commencer ce tour radiophonique. La discrépance, c'est le décalage entre une vision de la réalité et cette réalité elle-même. On voit commencer à apparaître des univers parallèles dans ce qu'on pensait être un endroit bien gentil, bien tranquille, de Marseille-Centre. Tout est normal, quoi. Et puis en fait, ça commence tout à fait dans autre chose. Un univers parallèle qui se développe. Est-ce que ta manière d'aborder ce commissariat ou ce non-commissariat, c'est quelque chose qui relève de la fiction ?
Oui et non. Parce que juxtaposition, c'est exactement ça. Espace parallèle aussi, c'est parfaitement ça. C'est-à-dire que c'est une fiction et en même temps, ça ne l'est pas du tout. Parce que grâce à la fiction, grâce au texte, je propose aux gens, aux personnes qui rentrent dans l'espace, hein, parce que ce n'est pas du tout fait pour être lu en dehors de l'espace, je propose aux personnes de vivre quelque chose de très très réel, de vivre l'espace réellement, et en même temps figurer, de se représenter un espace qu'ils ne voient pas réellement, mais qu'ils s'imaginent et qu'ils vont construire en fait.
Léonore, un petit extrait de ce texte ?
Ah bah d'accord. La porte cochère est fracturée. On l'a tout de suite compris en enfonçant la clé. Heureusement qu'on avait vidé la galerie pour la repeindre avant le vernissage. Pas d'œuvre donc, ni de matériel à voler. Ils ont quand même fouillé dans nos papiers, dérobé quelques documents. Il y a eu cambriolage ici même. Aujourd'hui, les œuvres sont installées. Pas question de se faire avoir une seconde fois. On a une idée. C'est insensé, mais prenons le risque. Inventons une exposition dans un espace réduit de la galerie pour détourner l'attention d'un autre cambrioleur et limiter son action. Une exposition qu'on montrait le soir et qu'on décrocherait le matin, un leurre.
Tel des montants en l'air, je vous propose qu'on avance un petit peu pour aller cambrioler un peu plus loin les œuvres qui sont proposées. On rentre dans le premier espace de cette exposition. Et après les visiteurs du soir, donc, qui nous accueillaient, la proposition de Léonore Nuritsany, on se trouve devant une pièce que je proposerais volontiers à Paul de décrire à l'instant T, au moment où nous sommes devant. Paul Destieux.
Alors nous avons une image qui a l'apparence très pixelisée, relativement abstraite, puisqu'on a, on est en face d'un signal vidéo qui est saturé et de petits bouts carrés qui se déplacent de manière agitée dans la projection.
C'est une pièce qui s'intitule Exposure Adjustment on a Sunset, qui est de Arti Virkant, une pièce qui dure 39 minutes, on la retrouvera donc tout à l'heure. Pour le faire court, c'est un coucher de soleil, mais un coucher de soleil un peu particulier, puisque le soleil effectivement passe derrière l'horizon, mais la nuit tarde à venir, et elle est petit à petit remplacée par du bruit. Alors on entend rien, parce que c'est un bruit d'image. À Benjamin Cadon, cette notion de bruit d'image, de bruit de quantification, de limite qu'ont les systèmes numériques à pouvoir transcrire un signal analogique, c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, cette question des limites des systèmes numériques ?
Oui, moi j'aime bien titiller effectivement le glitch et donc l'accident numérique dans ces logiques un petit peu de déstructuration de l'image. D'autant qu'on connaît tout ça à travers la compression vidéo, finalement, où on nous vole une partie de l'image de la vidéo du film en diminuant le volume d'information pour que ça tienne sur des supports divers, avant des CD, aujourd'hui des clés, peu importe. Et donc, effectivement, on voit de plus en plus ces artefacts qui sont assez révélateurs de ce que tu évoquais tout à l'heure. Le fait qu'on est aussi peut-être contre nature, finalement, sur certains aspects. Et là, c'est particulièrement criant, puisque ça, c'est vraiment des bruits complètement numériques et donc artificiels.
Une pièce qui a aussi un rapport au temps un petit peu particulier, Paul. Pour le coup, on n'est pas dans une inversion du temps, telle que le cinéma, par exemple, peut le proposer. Et selon toi, c'est finalement le seul art qui propose ce rapport très contre nature avec le temps. Pourtant, là, on a quelque chose qui me semble joue avec cette notion de l'écoulement du temps, peut-être pas tant dans une marche arrière, mais dans un point mort, il y a comme une stase du temps.
Il y a un moment où c'est effectivement une suspension, où tout le bruit aborde quelque chose qui est plutôt comme le neutre, ce neutre qui est un peu le bruit vers lequel se fondent tous les bruits, tous les sons, etc., ou toutes les images. Alors, il y a un passage de la figure du soleil, il y a ce truc infigurable qui est ce bruit d'image, mais c'est vrai que là, du coup, il y aurait une régression, la régression, elle est dans le passage d'une figure qu'on reconnaît à quelque chose comme ça, qui est sorte de bruit et qui a une dimension abstraite, mais dans ce qu'elle peut avoir justement de terrifiant, comme inconnu, on est au-delà de vraiment de nos repères, de la reconnaissance, quoi.
Plus. En préparant cette émission, ce tour dans la galerie, on avait évoqué que finalement, sur votre travail d'image, vous alliez souvent chercher les derniers retranchements de la bande vidéo, presque comme si c'était plus du tout aujourd'hui l'objet nouveau, intéressant pour des artistes, avec des champs formidables à découvrir, mais que finalement les artistes aujourd'hui, ils allaient un petit peu gratter le support, aller chercher dans les derniers recoins. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec d'autres propositions, avec d'autres œuvres dans ce que développe Autoprod, là, dans cette proposition Contre-temps. Luce Moreau.
Oui, il y a un rapport à une sorte de recherche jusqu'au paroxysme de l'outil. Donc essayer de manipuler l'outil pour qu'il nous offre pas son dernier souffle, mais un souffle différent.
Paul, décris ce qui vient de se produire.
Elle vient de se remettre à zéro, donc là, on est en plein... On voit un coucher de soleil qui va arriver. Quoi. On sait que ça va demander du temps. On sait que ça va demander du temps, donc attendons.
On va continuer un petit peu sur notre chemin, en suivant le parcours proposé par cette exposition. Là, on vient de rentrer dans une des pièces de cette galerie et on est face à une vidéo, à une pièce qui s'intitule Fade Out, je crois, qui est une pièce de Paul Destieu. Alors, Paul, que voit-on ? Peut-être plutôt, je vais demander à Luce, tiens, plutôt.
Alors, à l'instant même, ce qu'on voit, donc, c'est beaucoup, beaucoup de sable qui se déverse sur ce qu'on pourrait imaginer être un instrument de musique, et donc une batterie en l'occurrence, dans un décor de carrière avec d'autres tas de sable. Et donc ce déversement est assez violent et le son qui accompagne cette image est lui-même très violent et assez souterrain parce qu'on est à une progression de la vidéo qui dure 12 minutes. On est à un moment de la progression qui est plutôt près de la fin que du début.
Alors à la fois ça fait un petit peu de la peine, il y a un côté très, très violent effectivement dans cette pièce, la musique, l'art, quelque chose de fragile qui se trouve être bétonné, il y a une vraie symphonie pour la fin du monde parce que ce fade out c'est quand même un peu de ça dont ça parle, non, il y a une espèce de manière d'être très allègre, très joyeux, mais de parler de la fin de quelque chose, Paul ?
Oui, peut-être que l'idée c'était de travailler sur une espèce de fin de quelque chose, une espèce de transition qui amène vers une fin. Et là, en l'occurrence, c'était cette idée d'évanouissement, de disparition, qui est vraiment à mi-chemin entre un étouffement visuel, une disparition visuelle et un étouffement sonore.
Ce fade-out, il est plus général que simplement celui d'une musique qu'on entend de plus en plus enfouie sous un matériau. C'est un fade-out, c'est un peu le fade-out du monde. Alors, on n'est pas encore en décembre 2012 et on s'en fout complètement du calendrier Maya, mais il y a quand même quelque chose un peu de ça, quelque chose qui nous parle un peu de fin. Peut-être Jean, sur cette idée d'eschatologie et de comment aujourd'hui l'art contemporain en joue finalement, de cette temporalité, de cette finitude du monde.
Oui, je ne sais pas si il est tellement question de fin du monde dans cette histoire-là que de mouvement temporel de nouveau. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, par exemple ici, c'est que évidemment, on a affaire au contraire d'une boucle vidéo, puisque l'une des façons de faire fonctionner toute une vidéo installée en général, c'est de la faire fonctionner à partir d'une boucle, donc à partir d'un processus qui se renouvelle en se déplaçant, en restant lui-même, tout en se rejouant, ce qu'on va voir magistralement dans une autre pièce. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on a les deux éléments dans cette exposition, c'est-à-dire à la fois des phénomènes de boucle ou une réflexion autour de la notion de la boucle, c'est-à-dire d'une temporalité qui est une temporalité un peu spécifique, qui est celle des machines informationnelles qui fonctionnent à la boucle. Et d'un autre côté, d'une temporalité linéaire qui se rencontre et qui joue. Je trouve intéressant de remarquer que la galerie elle-même, normalement, est une boucle. C'est-à-dire qu'on est dans un espace qui tourne autour d'un jardin. Et donc, quand on voit des expositions ici, théoriquement, on est dans une boucle. On fait le tour d'un espace et donc on doit pouvoir recommencer. et que dans cette dans la scénographie de cette exposition, il se passe le contraire, c'est-à-dire que la boucle a été interrompue et on est donc obligé de revenir sur ses pas. Et à la limite, idéalement, revenant sur ses pas, on pourrait presque recommencer à revenir sur ses pas, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de boucle, comment dire, imparfaite et un peu bégayante, qui nous interroge sur son dispositif. Et je pense que c'est un peu ça, cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'elle va recommencer, cette vidéo, on n'est pas devant la fin totale, on voit une batterie se faire... immergé dans la matière fluide du gravier, mais on sait très bien que si on reste, ça va recommencer. Donc on nous propose un temps d'écoute, un temps de finition, et ce temps de finition, il est suffisamment fictif à l'échelle de la vidéo pour qu'il puisse se recommencer. Et je trouve plus intéressant cette idée du processus final qui peut se recommencer, qui est l'idée du film. Un film, c'est exactement ça, c'est quelque chose qu'on peut aller revoir. Cette temporalité que le cinéma a inventée, qui est rejouée ici et qui est confrontée à d'autres temporalités, parce qu'un film ne se termine jamais définitivement et totalement. Il se termine dans une potentialité infinie de se reterminer.
Paul Emmanuel Audin.
Alors, oui, parce que j'ai tout de suite pensé à La Femme des Sables de Abbé Kobo. Où c'est une histoire où tout le monde, les personnages principaux vivent dans un endroit où ils sont envahis par le sable. Et il y a cette expression du sable qui s'écoule, qui est vraiment une image terrible d'inertie, de stérilité, quoi. Donc de destruction. Mais ce qui me fascine là, dans la proposition de Paul, c'est qu'on va vers la disparition de l'image de la batterie. Et c'est un grand problème contemporain qu'on ne voit pas la source du son. Alors Garrigue, à sa façon, a recouvert de sable un haut-parleur dans la fameuse bande Mediation. Tout le cinéma contemporain, c'est le détachement de la voix des corps. Et là, on sait qu'à un moment, on verra plus cette batterie. Et on attend ce moment-là, quoi. Enfin, et ça, c'est quelque chose qui est très émouvant, parce qu'on va vers la fin de cette image, mais tout l'aspect destruction de ce qui abîme la batterie, il est très joyeux, quoi.
Un martyr d'une batterie, ou peut-être son effacement. Marseille, qui est une grande ville effaceuse, qui s'est très bien effacée et oubliée, ce qui était elle-même il y a seulement quelques minutes ou quelques siècles.
Tu dis ça pour les Journées du Patrimoine.
C'est une spéciale dédicace. Je vous propose qu'on continue notre tour, suivi d'un contre-tour. Se trouver ici dans un troisième espace de cette galerie des grands bains douches de la plaine, et devant deux propositions, on va peut-être commencer par celle-ci. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois sur ces écrans,
Benjamin? Je vois deux personnes allongées dans des positions un peu biscornues, un peu démembrées, qui sont en train d'opérer une sorte de lévitation, de disparition, d'envol. Avec leurs membres qui, comme je le disais, se déstructurent de plus en plus, se coupent de façon tout à fait étrange.
Alors il s'agit d'une pièce qui s'intitule Résurrection, qui est d'Arm van den Dorpel, une série de boucles vidéo qui date de 2009. Et ce sont de joyeux fêtards, ils ont beaucoup abusé des bonnes choses et ils sont plutôt allongés par terre, on va dire, dans un stade où la fête est un petit peu terminée pour eux. Sauf que bah, tout à coup, ils se mettent à s'élever lentement et à entrer en lévitation. Jean, la lévitation, je l'évoquais tout à l'heure, c'est évidemment un domaine que tu as travaillé dans le cadre d'un groupe de recherche qui s'appelle PLOT. Je signale même qu'il existe un site internet dont l'adresse est, je crois, levitation.free.fr et qui comporte une compilation d'un certain nombre de données.
Une compilation, en début.
Mais consistant quand même. Oui,
il faudrait le développer. L'idée de la lévitation, elle est... Enfin, c'est assez amusant que tu me demandes ça à propos de ces vidéos. Qui manifeste quelque chose qui est de l'ordre de la lévitation au sens où des figures s'envolent. Mais d'une certaine façon, je trouve que d'autres pièces ici parlent tout autant de la lévitation, en tout cas au sens où nous l'entendions dans Plot, c'est-à-dire non pas tellement comme le fait simplement de s'élever au-dessus du sol, mais comme ce qu'emporte cette image d'une relation à la temporalité, au temps. Et l'idée de la lévitation, elle est venue très simplement, à un moment donné, de l'évidence, du sentiment d'évidence de la rencontre entre une réflexion que nous menions depuis quelques années, qui était une réflexion autour des temporalités et du numérique, et en particulier de la lenteur, qui était une façon de prendre le contre-pied de cette idée que nous sommes dans un monde où tout va de plus en plus vite, etc., ce qui nous semblait extrêmement simplificatrice et caricaturale et dans une certaine mesure assez fausse. Parce que d'abord, on ne sait pas très bien ce qui accélère. Quand on dit tout accélère, ça n'accélère plus. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de paradoxe déjà de penser ça, de le désigner. Qu'est-ce que c'est qui accélère? Et qu'est-ce que ça veut dire que telle chose accélère? Est-ce que tout accélère? Moi, je ne trouve pas que tout accélère. Par exemple, je trouve que nous sommes dans une période d'une grande viscosité idéologique où les choses sont très lentes en termes d'idéologie et de processus de pensée. Donc je trouve qu'on est, de ce point de vue-là, dans une sorte de dilatation visqueuse du temps où les questions de vitesse et de lenteur sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut... croire. Et donc il y a un vrai objet de réflexion sur cette question du temps qui est d'essayer d'éviter la simplification des choses et d'essayer de rentrer dans la complexité de ce que ça peut représenter. Et en particulier dans le fait qu'il puisse y avoir plusieurs temporalités simultanées. C'est-à-dire que l'une des façons de penser le temps, c'est de penser qu'il y a aujourd'hui des temporalités qui se superposent ou qui s'incluent réciproquement les unes les autres, ce qui conduit immédiatement à la lévitation. Parce que léviter, c'est sauter et ralentir.
Là, en l'occurrence, est-ce qu'il est contre nature, quelque part, dans cette pièce, évidemment, pas que ces gens aient abusé des bonnes choses et qu'ils soient sous comme des bourriques, manifestement. C'est plutôt cette contradiction avec la loi de la pesanteur, finalement. Est-ce que la lévitation est une contradiction à la loi de la pesanteur?
Évidemment, à la fois oui et non. Alors oui, au sens où la lévitation a changé de sens. Je veux dire que la lévitation, traditionnellement, c'est un phénomène mystique, religieux, qui est lié à un contexte très particulier et qui, effectivement, indique une rupture avec les lois physiques, matérielles du monde. Quelqu'un se met à léviter et il est donc dans une situation d'exception fondamentale. Et comme on est dans un rapport métaphorique du poids et du léger qui est celui du corps et de l'esprit, on peut penser que s'il lévite, c'est que la bulle spirituelle en lui le fait s'élever. C'est un petit peu ce qui se passe ici, d'une certaine manière, sauf que la bulle spirituelle de ces gens ivres morts, elle est en soi une sorte d'ironie. Et en même temps, c'est une façon de nous donner à réfléchir à ces images, parce que la chose qui est très belle dans ces images, ce n'est pas les images elles-mêmes. Hein. Ce qui est beau, c'est ce que le mouvement fait naître à l'intérieur de ces images, et c'est la façon dont le mouvement est simple. C'est-à-dire que c'est aussi une archéologie de l'image qui nous est montrée là. Les effets sont extrêmement archaïques. C'est des papiers découpés, vous savez, les corps bougent comme les papiers découpés qu'on donnait aux enfants, et où ils pouvaient découper des silhouettes et les remettre en forme. Et en même temps, ce qui se joue du temps de cette élévation est chaque fois très beau. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un moment de délicatesse dans le déplacement des masses visibles qui se trouve être très beau. Donc, pour revenir à ta question, on est en train de nier le mouvement temporel. Et en même temps, non, parce qu'aujourd'hui, la lévitation, c'est devenu une évidence. C'est-à-dire que des gens lévitant, on les a vus. On a eu l'expérience des cosmonautes. Par exemple, je suis fasciné du nombre de personnages de fiction qui volent. L'idée du vol, c'est une idée qui est devenue d'une banalité absolument extraordinaire. Tout s'envole. Voilà, donc on est en train de parler de ça, c'est-à-dire qu'on est à la fois devant le plus banal et on est en même temps devant la mémoire de quelque chose de très étrange qui nous suit.
On s'avance maintenant vers une autre pièce qui est proposée dans cette même salle.
Je vois un parking avec des ballons. Enfin, moi, ça m'enchante, ça m'interpelle. On aimerait en savoir plus sur l'artiste, en fait.
Alors, l'artiste, il s'appelle Pasquale Sisto et la pièce s'intitule 28 Years in the Implicate Order. Et c'est une série de ballons de basket, on va dire, qui semble être animé d'un mouvement perpétuel. Et évidemment, on ne voit que les ballons en train de sauter sans cesse sur un parking. Mais on ne voit pas les basketteurs comme s'ils étaient animés d'une vie propre. Mais au-delà de la question trucage, pas trucage, comment truquer, pourquoi truquer, c'est la vérité de cette pièce qui est intéressante et elle contredit l'impossibilité du mouvement perpétuel. Peut-être sur cette proposition, Paul, sur... ce mouvement perpétuel.
Alors, très 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 tôt, enfin, le cinéma introduit du temps dans l'image. Et à un moment, ça passe par des images d'horloge. Et des images d'horloge qui se jouent à accélérer, ralentir et inverser, à distordre en fait. Et là, c'est vraiment une de ces propositions où tous ces ballons qui sautent, c'est une sorte de mécanique temporelle, implacable, avec ce mouvement musical où effectivement on passe d'un chaos de saut, puis paf, qui à un moment se synchronise de façon fugace. Et c'est juste, ce qui est magique, c'est qu'il y a une temporalité complètement hétérogène dans l'image. Alors nous, quand on voit une telle image, où il y a une contradiction quoi, dans la perception, puisqu'il y a on est dans un plan séquence, une unité de temps, dont témoignent des passages de voitures qui sont à peu près aux deux tiers de l'image. Dans le même temps, on a ces ballons qui inexplicablement rebondissent avec toujours le même rythme et ce bout de réel toujours singulier, toujours original, qui sont ces voitures qui passent derrière. Il y a quelque chose du mystère, d'une complexité de temps qui se superpose. On est dans le temps de l'esprit, là, quelque chose qui nous parle très profondément du temps de l'esprit. Ça me renvoie au Reflecting Pool de Bill Viola, qui est structuré de la même façon, avec le haut et le bas, une sorte de pluralité de temps dans le même endroit. Je pourrais citer aussi, d'une façon plus obscure, la distorsion qu'a fait Valerno Novarina en publiant un texte qui s'appelle « L'envers de l'esprit ». Et d'une certaine façon, c'est ce que propose le cinéma depuis qu'il existe. Et quand je dis « c'est le cinéma », c'est le cinéma, mais aussi toutes les images vidéo numériques telles que celle-ci, quoi.
Benjamin Cadon, à propos de ces images numériques, on a évoqué tout à l'heure les questions de quantification et de bruit de quantification, de passage d'un signal analogique à un signal numérique. Mais il y a une autre question où le numérique montre une espèce de faille temporelle, c'est celle du réseau. Alors là, cette vidéo, elle ne nous est pas diffusée en streaming, mais on pourrait imaginer qu'elle le soit. sur ces failles temporelles, sur les dilatations, les rétrécissements du temps en fonction du flux des données dans les réseaux qui sont aujourd'hui partout, qui forment notre quotidien. Benjamin Cadon.
Oui, en partant peut-être d'une anecdote à propos de ce phénomène de streaming vidéo qui consiste à envoyer un flux vidéo pour qu'il soit reçu dans d'autres endroits du globe. Et j'ai pu à certaines reprises constater que ce flux se dilatait entre la réalité et puis le retour écran qu'on pouvait avoir de ce flux streamé sur un réseau. Où se dilate cette temporalité? Est-ce que c'est dans les multiples arcanes d'Internet, puisqu'on sait que les paquets naviguent de façon un peu hiératique pour trouver leur meilleur chemin? Voilà, ça pose effectivement une question assez intéressante de savoir comment finalement le passage au numérique finalement peut complètement pervertir le rapport qu'on peut avoir au temps et à nouveau faire ce switch entre une logique très analogique telle qu'on le connaît dans la nature où finalement il s'agit de phénomènes continus et puis le numérique où on est vraiment dans la discrétisation du vivant, c'est-à-dire on va découper le vivant en petites tranches pour le rentrer dans des 0 et des 1. Et cette opération de boucher temporel, si je puis dire, est pas sans conséquences, y compris sur notre perception, et finalement qui nous prive d'une certaine palette en fait, de couleurs, de mouvements, et donc qui peut provoquer peut-être une forme de frustration inconsciente aussi. Et donc voilà, c'est toujours un petit peu dans cet écart entre la nature quand on la contemple avec nos yeux, et puis une nature à travers un objectif d'une caméra numérique qui se retrouve grandement diminué en contrepoint de la réalité augmentée qu'on promeut aujourd'hui comme quelque chose de phénoménal, voir le monde à travers un écran de téléphone portable. Voilà, est-ce que c'est complètement augmenté? Finalement, le numérique nous a presque donné le don d'ubiquité quelque part, puisqu'aujourd'hui on peut avoir accès à une information qui est distante de l'autre côté de l'océan Atlantique en quelques millisecondes. Donc il y a une forme à la fois d'isochronie un peu particulière qui s'affirme avec l'avènement du numérique, son utilisation de plus en plus importante, et puis une forme aussi de chronotopie quelque part, où on est partout en même temps, tout le temps, grâce à ces réseaux et à ces numérisations, ces formats, ces transferts.
Encore un petit peu notre voyage dans cet espace-temps décidément bien curieux, qui est l'exposition Contre-temps. Léonore ?
Oui, je pense depuis tout à l'heure au film de Warhol, qui a révolutionné le cinéma à mon avis. Je pense au film Empire. Quand il filme le sommet de l'Empire State Building, pendant 8 heures du coucher au lever du soleil, et on a dit que c'était une carte postale animée, c'est évidemment bien plus que cela. Je trouve que c'est très intéressant d'en parler par rapport à cette exposition-là, et du temps, du rapport au temps. Parce que le fait de filmer comme ça, le réel, en temps réel, dans un rapport complètement insupportable à la réalité, à la temporalité, puisque regarder pendant 8 heures une image qui ne bouge pratiquement pas, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais dans la réalité. On ne reste pas 8 heures en face d'un monument. Donc c'est une façon de montrer la réalité et en même temps de dire qu'on ne peut pas regarder normalement la réalité. C'est une façon de la transformer complètement. Et ici, je trouve qu'il y a dans toutes ces œuvres-là et dans la circulation de l'espace aussi, une réflexion par rapport au temps et par rapport au fait qu'ils nous permettent, dans le traitement qui est fait ici, de se déplacer légèrement dans un autre espace-temps, une autre réalité dont on parlait au début. Et c'est vrai que les films de Warhol, le fait de regarder 6 heures quelqu'un dormir, ce qu'on ne fait jamais aussi, même si on est très amoureux,
crois qu'il l'était, de Joe D'Alessandro.
Voilà, c'est vrai. Mais même. Et ce temps-là, un peu distendu comme ça nous permet de nous échapper, d'aller dans d'autres sphères de réflexion, d'évasion. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est vraiment parler de choses qui sont a priori scientifiques, immuables. Il suffit de déplacer un petit peu les choses pour créer un espace parallèle. Et ça permet aussi aux personnes, ensuite, de ne plus jamais oublier ce déplacement-là et de voir tout ce qui les entoure avec cette idée, cette nouvelle idée, cette nouvelle conception, un nouveau rapport du corps à l'espace, du corps au temps. Et c'est quand même là aussi absolument révolutionnaire, je trouve, et c'est passionnant.
Alors, puisqu'on parle de révolution et de choses révolutionnaires, on se trouve là maintenant devant, ben non, pas une révolution. Parce qu'en principe, on nous a expliqué que la Terre tourne, les étoiles tournent, tout tourne, l'univers n'existe que parce qu'il est en mouvement. Et là, on est devant une pièce que je vais te proposer de décrire.
A priori, c'est une vue du ciel, soit au crépuscule, soit au lever du soleil, puisqu'il y a en bas le jour naissant ou le jour qui tombe. Donc il y a un petit camaïeu de couleur très joli, qui va du rose au bleu en passant par le noir, et des étoiles que je ne reconnais pas.
Un ciel d'étoiles qui est proposé par Luce Moreau. Je crois que la pièce s'intitule Volta. Luce, cette pièce, elle est étonnante par rapport à ces lois de l'univers qu'on ne cesse décidément de critiquer en parcourant cette exposition, puisque ce que tu nous montres, c'est au fond une immobilité d'un mouvement céleste. Tout à coup, comme si tout s'arrêtait, comme si la Terre arrêtait de tourner, comme si nous adoptions un point de vue statique. Alors c'est comme si Galilée s'était trompé, lui qui disait « Poi si muove, elle tourne la Terre », en fait, ben non. Et ça d'une manière assez simple finalement, en utilisant un dispositif, peut-être que je te propose de nous décrire.
Alors déjà, au contraire, cette vidéo, si on la regarde pendant les 70 minutes qui sont sa durée, on se rendra compte que oui, effectivement, Galilée avait raison, la Terre tourne. Car cette vidéo propose un travelling, un mouvement de caméra. Le mouvement est contre-naturel car en fait, il annule cette pesanteur, cette loi de l'attraction qui nous lie au sol. Et elle annule cette loi physique pour porter la caméra en apesanteur et à offrir un point de vue statique sur un monde en mouvement. J'ai emprunté le titre justement en allant fouiller dans le site de lévitation donc de Jean. Et quand tu parlais tout à l'heure, Jean, de la lévitation, c'est sauter et ralentir, c'était exactement dans ce sens-là que je présentais cette vidéo. Le trépied que j'ai utilisé et qui compense le mouvement de la planète permet du coup, nous permet de voir, d'observer le mouvement de cette Terre, non pas par le mouvement des étoiles, mais par le mouvement de la Terre et du paysage terrestre lui-même.
Jean, sur ce mouvement céleste qu'on perçoit, mais qu'on perçoit finalement selon le dispositif et quelque part selon le point de vue qu'on adopte.
Oui, enfin c'est le mouvement terrestre. C'est-à-dire que ce que nous propose Luce, qui est quand même assez rare, c'est de voir la Terre bouger, ce que normalement nous ne pouvons pas voir puisque nous sommes dessus, donc on bouge avec elle. Puisque ce que fait le support, le bras qui tient la caméra, c'est de rester immobile par rapport à l'axe des étoiles. C'est la Terre qui se met à bouger à ce moment-là. Mais il s'agit d'interroger le point de vue. Et je trouve qu'un certain nombre de pièces dans l'exposition interrogent le point de vue. C'est-à-dire n'interrogent pas tellement les lois physiques de la Terre, mais la façon dont nous les percevons, nous les regardons et nous les pensons. Et ici, c'est une interrogation très lente et très tranquille, et très belle, et très paisible sur notre point de vue, simplement qui est étourdissante. Et ce qu'on retrouve, c'est exactement la question du pendule de Foucault. Parce que ce que fait le pendule de Foucault quand il bouge, c'est qu'il nous montre exactement la même chose, le pendule de Foucault dans son reste immobile par rapport aux étoiles. On est en train de voir, voilà, la vidéo est revenue à son début, donc on voit un paysage dans la nuit, on voit les lumières des villages, on voit, là il n'y en a pas, mais on va voir des voitures passer devant. On a les étoiles au-dessus, et comme on peut le voir, les étoiles au-dessus sont très exactement dans la même position qu'elles étaient à la fin de la vidéo, c'est-à-dire quand l'horizon a complètement basculé, et avec lui la Terre. Donc en fait, voilà, on regarde la Terre basculer, et heureusement, c'est une boucle.
Thank you. On va revenir dans un instant pour retrouver cette œuvre. Le temps de continuer notre tour et de découvrir une septième pièce. Qui est intitulé Paparuda, une pièce de Monsieur Mou. Quentin, ça commence comment ?
Alors, on voit un ciel gris, on voit quelqu'un dans une pièce qui semble être un laboratoire en train de manipuler peut-être des boîtiers en carton, d'autres en polystyrène. Et un maître, donc des activités proches qui ont l'air scientifiques en tout cas.
Alors Paparuda, une pièce de Monsieur Mou, une pièce où tout à coup il joue à devenir le maître du temps, une pièce dans laquelle il réalise en fait des ballons qui sont utilisés normalement pour des mesures dans l'atmosphère. Et ces ballons portent des petites caisses qui sont munies d'un dispositif automatique. Elles sont remplies d'un produit, je pense que ça doit être des sels d'argent ou quelque chose comme ça, de l'iodure d'argent. Et ça a la propriété, quand on ouvre la caisse au milieu d'un nuage, de cristalliser l'eau qui est contenue dans ce nuage et de faire tomber la pluie. Voilà donc Monsieur Mou est le maître du temps, le maître de la pluie et du beau temps, encore une contradiction avec cette idée que nous subissons finalement le temps qu'il fait. Luce Moreau.
Oui, alors c'est effectivement l'unique pièce de l'exposition qui prend la forme de cinéma, et donc avec un montage. Voilà. Donc en fait, là, ce qui est intéressant dans ce film-là, dans cette vidéo, par rapport au reste de l'exposition, c'est que l'artiste, nous offre la vision, nous permet de voir justement un geste offensif. Et donc, il passe de derrière la caméra à devant la caméra pour faire sa performance. Et donc, c'est la seule figure humaine vivante et en bonne santé, on va dire, parce qu'on peut penser aussi aux âmes déchues de Harm van den Dorpel. Mais la seule figure humaine qui s'empare justement de la technologie et qui va nous montrer comment il va mettre en œuvre son projet qui était effectivement d'ensemencer des nuages au Canada, à la frontière des États-Unis, et donc qui a été réalisé l'année dernière.
Une pièce certainement dans laquelle résonnent des préoccupations climatiques qui sont évidemment aujourd'hui au premier plan de l'actualité, la maîtrise d'un climat dont on dit qu'il se réchauffe, sur cette idée de maîtrise du temps et finalement comment est-ce que les pratiques de l'art contemporain jouent de manière ludique avec ces questions de « je suis le maître du monde ». Quentin.
Je pense que là, l'idée de Max, donc, c'était encore de jouer avec un nouveau médium. Dans cette vidéo, le médium est donc le climat. On sait depuis quelques années maintenant que ces techniques qui sont utilisées par les armées, c'est utilisé aussi par les agriculteurs pour éviter la grêle au-dessus des vignes ou des choses comme ça au moment de la récolte. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles l'homme intervient de plus en plus. On voit aussi des projets que Benjamin Cadon pourrait évoquer, comme les projets ARP et des projets comme ça, qui sont des espèces de projets mis en place par des sections de l'armée américaine et qui pourrait jouer sur le climat mondial actuellement.
Benjamin, sur les projets qu'évoquait à l'instant Quentin.
Oui, qui ne sont pas extrêmement drôles, malheureusement. Donc autant les détourner, effectivement. Quentin évoquait le projet ARP, qui est un radiateur ionique qui a été installé au pôle Nord par les États-Unis, et qui a une vocation supposément de recherche climatique. mais qui reste contrôlé par l'armée américaine. Donc on peut un petit peu questionner en fait cette posture pour savoir si c'est un but désintéressé et noble qui anime ce radiateur ionique. Donc après on peut échafauder tout un tas de théories autour de l'activité de cet appareil. Toujours est-il qu'il y a effectivement une recherche climatique et quelque part des tentatives de manipulation du climat, là aussi dans des buts offensifs, à l'instar de Monsieur Mou qui attaque les nuages. Et donc on peut effectivement questionner la manipulation du vivant et la manipulation du climat par l'homme, sa prétention à croire qu'on va tout pouvoir maîtriser. Et du coup ça reste complètement sympathique que des artistes s'emparent aussi de ces questions, mais néanmoins je trouve que ce questionnement est complètement sain vis-à-vis de notre société, de nos préoccupations par rapport à tous ces enjeux et tous ces travers que l'on peut croiser.
Eh bien, je vous propose que nous fassions demi-tour pour un contre-tour et un retour. On va aller évidemment un petit peu plus vite qu'à l'aller, puisqu'on retrouve des pièces qu'on a déjà vues. Lucien Codillon, bonjour.
Bonjour Xavier.
Peut-être deux mots sur justement les performances qui vont tout à l'heure, à l'issue prochaine de ce petit tour radio, pouvoir commencer, et puis ce que vous allez nous donner à entendre. Et peut-être pour commencer, quelques mots du label Date, et qui sont vraiment en lien avec le voyage temporel, spatial et temporel qu'on vient de faire, puisque je crois que c'est un label qui est particulièrement intéressé par le bruit des étoiles.
Ah oui, ça c'était le bruit des étoiles, donc c'était sur une revue sonore qu'on mène, avec laquelle participent de nombreux artistes, plutôt locaux, marseillais. On essaie, avec la structure Date, de promouvoir des musiques nouvelles, musique concrète, musique acousmatique, mais aussi improvisée. Et
vous écoutez les étoiles.
Et on écoute les étoiles.
Des pulsars.
Des pulsars, entre autres. Donc ça, c'est une idée plutôt de David Merlot, qui nous a imposé ce choix-là. Ça a été déjà travaillé par d'autres compositeurs. Hein. Il y avait Griset, Claude Risset, après, les étoiles, nous, c'est pas un prétexte, mais on a un peu la tête dans les étoiles, quoi.
Ceci dit, c'est encore une chose, une espèce de loi universelle qui vient d'être franchie, puisque vous le savez, si vous avez vu Alien dans l'espace, on ne vous entendra pas crier. Lui, si.
Ah oui, j'ai mis ce pin's de Batman, c'est pour écouter les ultrasons, et ce genre de trucs, des fréquences qu'on n'entend pas forcément à la première écoute.
The Dark Knight en la personne de Lucien, ainsi que des deux autres performeurs qui vont tout à l'heure vous proposer trois performances en lien direct avec les pièces qu'on vient de traverser. Donc là, c'est la vidéo comme une sorte de partition graphique, finalement, pour inspirer le travail d'un musicien. Et puis aussi, tout à l'heure, une performance audiovisuelle de Benjamin Cadon, qui est intitulé 2013. Et ce que je vous propose maintenant à tous, c'est qu'on a un petit peu soif et qu'on se retrouve dans le jardin pour continuer cette discussion si vous avez encore des questions à poser. Merci à tous.
Merci. Bravo.
Entretemps, un tour radiophonique de l'exposition Contretemps, proposée par Autoprod et Arcade à la Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine. Vous y avez entendu Léonore Nuritzani, Benjamin Cadon, Jean-Christophe Holl, Paul-Emmanuel Audin, Paul et Quentin Destieux, Luce Moreau et Lucien Godion. L'exposition Contretemps est encore visible jusqu'au vendredi 21 septembre 2012. Précipitez-vous à la Galerie Arcade. C'est 35 rue de la Bibliothèque. Plus d'infos sur art-cad.org ou bien sur levitation.free.fr ou encore sur daath.org. D-A-A-T-H.